Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Christian Page.
Salut Mathieu.
Rebonjour. Hey, c'est la semaine de l'Halloween.
Oui. Écoute Mathieu, j'aimerais revenir, si tu me le permets, sur notre petite écartade de tantôt. Là. Je te parlais des
sur les ovnis.
Les ovnis puis oui. La science. Écoute, je vais... Je vais te raconter un truc.
Vas-y.
Que tu ne liras probablement jamais dans les livres sur les ovnis ou très rarement. Et évidemment, les amateurs d'ovnis ne s'en vantent pas non plus. En 1997, le milliardaire, parce que je trouve ça tout le temps un peu aberrant quand on remet en question la science. Tu sais, tu étudies quelque chose, puis parce que tu n'arrives pas à l'expliquer, on remet en question la science. On a-tu déjà entendu Stephen Hawking qui étudiait le temps, l'espace, les trous noirs, dire « Ah, c'est la science qui est pas bonne! »
Ça n'arrive pas à la même hypothèse.
On n'arrive pas, c'est ça. Écoute, il y a un exercice qui a été fait, puis ça, évidemment, les amateurs d'ovnis n'en parlent pas souvent. En 1997, le milliardaire Lawrence Rockefeller, qui s'intéressait beaucoup à ces trucs-là d'ovnis, tout ça, il se posait la question « Pourquoi est-ce que les scientifiques n'étudient pas la question des ovnis? Moi, ça m'intéresse. Pourquoi eux ne le font pas? » Alors, il va s'associer avec un type qui s'appelle Peter Sturrock, qui lui est un astrophysicien, et ils vont créer une espèce de comité. Tout ça se fait à huis clos, là. Donc, on va aller voir des scientifiques, on leur pose la question « Pourquoi vous vous intéressez pas à la question des ovnis? » C'est intéressant. Et ces gens-là, les scientifiques répondent « Ben, parce qu'on n'est pas payé pour le faire. » Alors, Lawrence Rockefeller, qui a beaucoup de sous, on le comprend avec oui. Le nom comme ça, il va réunir un comité de scientifiques qui vont agir un peu comme un jury. Donc, ces gens-là n'ont pas de position sur les ovnis ou non, vrai, pas vrai. Ces gens-là sont simplement là pour écouter. Et là, on fait venir devant eux les plus grands spécialistes des ovnis au monde, mais qui ont des formations scientifiques, entendons-nous, là, comme par exemple en France, au CNES, le Centre national des études spatiales, qui est un peu la NASA française, ils ont un bureau d'enquête sur les ovnis, un bureau étatique là, qui est payé par l'État. Donc, on fait venir, par exemple, le directeur de ce bureau-là, on fait venir donc des grands spécialistes des ovnis, mais qui sont doublés d'une solide formation scientifique. Et ces gens-là vont présenter un peu comme un jeu de juges et jurys. Ils vont présenter leur meilleur dossier OVNI devant ce comité d'experts scientifiques. Et autant du côté des spécialistes des OVNI que des scientifiques invités, aucun d'entre eux ne remet en question la position de la science. On s'est pas dit, on va réinventer la science parce que ça fonctionne pas. Ce que ces gens-là ont reconnu, on était tous d'accord avec ça. C'est qu'il y avait des dossiers fort intéressants là-dedans, des choses qu'on n'expliquait pas, mais que les preuves matérielles pour appuyer ça étaient absolument déficientes. Et qui plus est, et ça, les amateurs devenus ne te diront pas ça, ce comité-là, en 1997, ont supporté, ont endossé les conclusions de l'armée de l'air faites 30 ans plus tôt, à la fin des années 60. Donc, les grandes conclusions de l'armée de l'air américaine, c'est il y a rien qui prouve qu'on est visité par des extraterrestres, on n'a pas de preuves matérielles que ces engins-là soient des engins pilotés utilisant une technologie qu'on ne connaît pas. La seule différence, donc ces gens-là ont dit, oui, tout ça, l'armée avait dit ça il y a 30 ans et malheureusement, on doit endosser ces conclusions-là. C'est exactement ça. La seule chose où ils ont différé au niveau des conclusions, c'est qu'en 1969, l'armée de l'air américaine, mais en fait, ils ont terminé en 1969, ils ont rendu public leur conclusion en 70. L'une des conclusions était, il n'y a pas d'intérêt scientifique à étudier les ovnis. C'est la seule place où le comité de 1997 de Rockefeller ont eu une variante. Ils ont dit, oh, là, peut-être que l'armée a fermé la porte un peu vite. Il y a probablement un intérêt à étudier la question des ovnis, ne serait-ce que peut-être ça va permettre de découvrir des phénomènes atmosphériques inconnus ou des nouvelles lois de l'aérodynamisme. Mais en dehors de ça, on n'a pas remis en question la science. La science, elle est là. C'est une bonne méthode pour analyser les faits. C'est simplement les faits qui ne sont pas au rendez-vous.
OK. Donc, tu n'iras pas plus au congrès tantôt.
Non, je n'irai pas plus au congrès.
Christian.
Oui.
Bigfoot.
Oui, oui.
On a un film sur le Bigfoot.
Ouais, je voulais t'en parler parce que, bon...
Pas ceux du Madrid.
On va pouvoir élargir la chose. Mais écoute, on fait nos éphémérides du mois d'octobre.
Oui.
Imaginons, on est le 20 octobre 1967. Donc, il faut se reculer dans le temps de 51 ans. Et là, ce jour-là, donc, faut quand même un peu se mettre dans le bain. Quelques semaines plus tôt, des gens ont rapporté avoir observé des empreintes mystérieuses près d'un chantier d'abattage, des empreintes qui faisaient 18, 19 pouces de long. On le comprend, on est aux États-Unis, donc c'est des empreintes immenses. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Alors, on se dit, là, c'est la légende du Bigfoot. On connaît tous, je pense que les auditeurs savent de quoi on parle. Oui. Ces hominidés, mi-hommes, mi-gorilles, qui entraient les forêts de l'Amérique du Nord. Aux États-Unis, on l'appelle Bigfoot. Au Canada, le Sasquatch. On a un petit cousin népalais qu'on appelle le Yeti. Donc, on a beaucoup de ces histoires-là. Alors, les gens disent, ça doit être le Bigfoot. Et là, voilà que deux hommes décident de patrouiller à cheval tout ce secteur-là. On est dans la région de Bluff Creek, dans le nord de la Californie. Et nos deux hommes en question sont un type qui s'appelle Roger Patterson. Et l'autre s'appelle Robert Gimlin. Gimlin est un individu au-dessus de tout soupçon. Hein? C'est comme on dit par ici, on y donnerait la Bible sans confession. Mais Roger Patterson est un escroc, là. Un magouilleur de la pire espèce. Puis s'il y a une pièce à faire, c'est sûr qu'il est là.
Et ça tombe pas bien. Fiable.
Ouais, pas fiable. Et ça tombe bien parce qu'il est justement en train de faire un documentaire sur le Bigfoot. Donc, il s'est loué une petite caméra et il n'arrête pas de dire autour de lui, oh, « Si je pouvais filmer un Bigfoot, ça serait merveilleux pour mon documentaire. » Et ce jour-là, donc le 20 octobre 1967, alors que les deux hommes arrivent sur les bords d'une petite crique asséchée, ils vont tomber nez à nez avec la créature. Alors, le cheval de Patterson est né, il est désarçonné. Le temps de se relever, il saisit sa caméra 16 mm. Il court en direction de la créature, tombe à deux ou trois reprises, finalement se relève et pendant à peu près 59 secondes, il va filmer cette créature. Le centre du film, je dirais, on a une quinzaine de secondes où la créature, on la voit bien. Et depuis, évidemment, c'est le débat. Est-ce que ce sont des images originales? Est-ce que c'est un homme dans un costume? Est-ce que c'est réellement la créature? Donc, le débat n'est pas clos. Mais évidemment, on peut se poser la question, au-delà du film Patterson-Gimlin, comme on l'appelle, comment se fait-il qu'on n'ait pas de meilleures images de la créature? Tu comprends? Avec l'avènement de films, d'appareils qui nous permettent d'avoir des photos, on est toujours en train de nous ramener ces vieilles images qui datent de 51 ans. Et ce n'est pas
faute... C'est l'image classique là, que vous avez vue sur le bord d'un espèce de marécage.
Voilà. Et ce n'est pas faute de ne pas avoir essayé. Et là, c'est amusant parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les chasseurs de Bigfoot ont leur propre série télévisée. Ouais. Hein, des espèces de séries de réalité où on suit des chasseurs de Bigfoot. Et il y en a une, entre autres, qui m'a toujours fait rire, qui s'appelle Finding Bigfoot. Ils ont fait 9 saisons. Puis écoute, là, t'es 9 saisons dans le bois avec un caméraman. Et ces gens-là, ce qu'ils font, ils vont là la nuit, dans des forêts boréales, écoute.
Et au Québec, on a de la misère à amener une caméra à Longueuil, là, ça vous donne une idée.
Ils prennent un bâton, ils frappent sur des arbres la nuit, avec des lumières, ils ont des appareils infrarouges, puis ils se filment mutuellement, ils imitent le cri du Bigfoot. On peut en entendre d'ailleurs un cri de Bigfoot. Et ça, c'est un supposément authentique cri de Bigfoot.
Ah oui?
Donc, ces gens-là frappent sur des arbres et là, on entend au loin du bruit dans l'obscurité. Et là, ils regardent la caméra et ils disent « It could be Bigfoot. » Hey, it could be moufette, it could be écureuil, it could be orignal, it could be n'importe quoi. T'es dans une forêt boréale. Ce qui est étrange, as-tu déjà remarqué que les Bigfoot vivent dans les mêmes forêts où vivent des ours? Ils semblent partager le même écosystème.
Salut Christian.
Salut.